Donc Jean-Pierre a dit beaucoup de choses, donc ça c'est excellent. Et je voudrais ajouter parmi les fondamentaux un autre élément qui est également très très important, tout en vous remerciant de cette initiative et pour expliquer mon point de vue qui sera plutôt celui d'une politologue que je suis. Il y a un autre élément qui est très important qui est le fait qu'on est dans une situation complètement inversée par rapport à celle qu'on avait il y a 200 ans, même 150 ans. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le problème qu'avaient beaucoup de gens qui voulaient être mobiles, c'était de sortir de chez eux. Et aujourd'hui, le problème qu'ils ont, c'est d'entrer quelque part. Donc, et ça, c'est un phénomène très important qui a d'ailleurs été un peu décliné d'une façon différente avec le droit de sortie depuis 1989 de toute une série de pays qui maintenaient les gens chez eux, comme le bloc communiste, dont la Chine. Donc ça a eu un impact très important. Mais pendant très longtemps, beaucoup de pays considérait que la population, et on y reviendra, était une ressource essentielle. C'est-à-dire que plus les pays étaient autoritaires, plus ils maintenaient chez eux la population, parce que la population, c'était une ressource économique, surtout agricole, c'était une ressource militaire, c'était une ressource en termes d'impôts. Donc on maintenait la population à l'intérieur de chez soi. Et pendant très longtemps, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il était difficile de sortir de chez soi, mais il était facile d'entrer quelque part. Parce qu'il y avait des grands pays qui commençaient à se peupler, comme les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine, etc. Et aujourd'hui, on est dans une situation inverse, c'est-à-dire qu'il est facile, et ça c'est seulement depuis 1989 en gros, de sortir de chez soi, et des pays qui étaient relativement, avares dans la distribution des passeports, y compris des pays du Sud, comme beaucoup de pays africains, ont compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à permettre aux gens de sortir de chez eux. Donc il y a eu une généralisation de la possibilité d'avoir un passeport dans le monde seulement depuis 20 ans. En revanche, il est devenu de plus en plus difficile d'entrer quelque part. Et ça, c'est une des grandes mutations que nous avons eues depuis ces 20 dernières années, outre le glissement des catégories de migrants. Et je vais donc revenir là-dessus en parlant des régionalisations, puisqu'à la fois, les migrations se sont mondialisées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, presque toutes les régions du monde sont concernées de près ou de loin par le départ, par le transit, par l'arrivée. Mais en même temps, malgré cette mondialisation des flux, elles se sont encore plus régionalisées qu'elles étaient par le passé. Donc là, je pense que Là, je suis partie de cette carte parce que cette carte montre bien les inégalités du développement humain et la migration. Aujourd'hui, c'est une stratégie d'ajustement. C'est-à-dire que une des plus grandes inégalités aujourd'hui qui existent dans le monde, c'est le pays où l'on est né. Et parce qu'avec, il y a tout un faisceau de facteurs qui sont des faisceaux des facteurs d'inégalité. Et donc, la migration, c'est une façon d'atténuer ces inégalités à l'échelle mondiale. Ça, ce sont les indicateurs du développement humain tels qu'ils sont définis par le PNUD, qui sont l'espérance de vie, qui sont le taux de scolarisation et le niveau de vie. Donc si on croise ces trois critères un peu grossiers, on a cette carte qui montre bien le continent africain et qui explique aussi la très grande mobilité dans laquelle est entré aujourd'hui le continent africain, mais je ne vais pas m'y étendre. Je voudrais juste présenter cette carte, parce que cette carte, elle montre bien la tendance à la mondialisation, mais aussi à la régionalisation des flux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la migration internationale, elle s'accompagne d'encore plus de migrations internes. Il y a peut-être un chiffre qu'on n'a pas cité tout à l'heure, c'est les 740 millions de migrations internes qu'on a dans le monde. Donc aujourd'hui, on a plus de trois fois plus de migrations internes que de migrations internationales. C'est lié aussi à d'autres définitions qui sont par exemple celles des frontières. Aujourd'hui, il y a eu une multiplication considérable des frontières qui n'existaient pas par le passé, mais malgré ça, on a beaucoup de migrations internes dans le monde et des régions entières sont concernées par ces migrations internes. Donc si on regarde par exemple le continent américain, on voit aujourd'hui que la plupart des migrations du continent américain viennent du continent américain. Donc ça, c'est nouveau, parce que pendant très longtemps, les gens venaient d'Europe, pour l'essentiel. États-Unis, Argentine, Brésil, Chili. Aujourd'hui, notamment dans le cône sud, les migrations viennent des pays andins. Pour les États-Unis, aujourd'hui, les migrations latino-américaines constituent la première communauté aux États-Unis. Donc, ce ne sont plus les Européens. Donc, ça, c'est un changement considérable dans la configuration régionale. De même, si on regarde l'Europe, elle fonctionne dans une sorte de synergie migratoire avec l'Afrique jusqu'à l'Équateur. Et donc, là, on a une sorte d'espace migratoire complexe, parce que tout le monde ne vient pas de la région, mais il y a quand même un espace migratoire très fort qui s'est constitué à ce niveau-là. Et pour le reste de l'Afrique, l'Afrique du Sud est un pôle essentiel pour les populations qui se trouvent au sud de l'Équateur. Autre région migratoire, le monde russe. Le monde russe a une vraie réalité migratoire. On a tout à l'heure parlé de cette migration à l'intérieur de la Fédération de Russie. On a à peu près 12 millions de migrants à l'intérieur de la Fédération de Russie, mais il y a une intense mobilité dans l'espace constitué par l'ancienne URSS, c'est-à-dire migration des Russes qui retournent plutôt vers Moscou, Saint-Pétersbourg. Et puis, on a de l'autre côté une migration qui vient d'Asie centrale et qui va migrer également vers Moscou, Saint-Pétersbourg pour travailler, mais aussi vers le Kazakhstan, etc. Donc il y a une très grande mobilité dans la région. Autre espace migratoire, disons le monde arabo-musulman constitué par la rive sud de la Méditerranée, la Corne de l'Afrique et le Yémen et les pays du Golfe. Là, on a une très très grande activité migratoire. C'est un exemple type de migration sud-sud. Ces migrations sud-sud qui sont aussi importantes en chiffres que les migrations sud-nord, faut pas l'oublier. On a également un autre espace migratoire qui est constitué par l'Asie du Sud-Est, donc avec deux grands géants, Chine et Inde, et qui sont très présents dans la région, mais qui sont également fortement mondialisés. Et puis l'Océanie, donc avec l'espace que constitue l'Australie dans sa synergie avec notamment l'Asie du Sud-Est, mais aussi avec l'Indonésie. Donc, tout ça, c'est important. Et parmi les grands enjeux, deuxième point de cette régionalisation, c'est qu'elle correspond à des lignes de fracture du monde, que sont par exemple la frontière entre les États-Unis et le Mexique, la Méditerranée, l'Europe des 27 et ses voisins, la ligne que constitue le Japon, l'Australie, quelques grands pôles comme la Corée du Sud, et puis les voisins qui sont des pays souvent de départ, par exemple les Philippines, un Philippin sur 10 vit à l'étranger. Donc dans ces affrontements, il y a un affrontement démographique, comme on le voit sur cette carte. Là, on voit les pays qui sont en déclin démographique, qui sont en vert. On a les pays qui sont en transition démographique, qui sont entre le jaune pâle et le orange, et puis les pays qui ont encore une très grande vitalité démographique, et c'est un enjeu essentiel pour le 21e siècle, puisqu'on va avoir des transformations de masse démographique très importantes à l'échelle mondiale. Le continent africain, par exemple, qui, selon les démographes, devrait passer à 2 milliards d'habitants à la fin du 21e siècle. L'Inde, qui va progresser à 1,6 milliard, disons, à la même période. Et puis la Chine, qui va, au contraire, diminuer, puisque la politique de l'enfant unique va créer une rupture dans cette évolution. Et puis quelques autres grands géants démographiques, Pakistan, Nigeria, etc., qui vont peser fortement. Autre élément, bien sûr, qui est presque l'inverse, c'est la richesse et la pauvreté. Si on regarde en revenu national brut par habitant, on a cette carte donc, et, qui montre pourquoi les gens bougent. Les gens bougent pour atténuer les grandes fractures qui existent à l'échelle mondiale en termes de population, mais surtout en termes de revenus. Les réfugiés qui ont beaucoup contribué à la mondialisation des flux, puisqu'on a eu ces mouvements de réfugiés très forts dans les années 90, pas seulement vers l'Europe, mais aussi vers des pays du Sud. Il ne faut pas oublier que les pays champions dans l'accueil des réfugiés, ça a été l'Iran, le Pakistan, aujourd'hui la Syrie. Donc ce ne sont pas les pays les plus riches, loin de là. Et l'Afrique a été à la fois producteur et récepteur de ces réfugiés donc, dans la région. Donc là, le phénomène régional joue à plein, puisque l'essentiel des personnes qui ont été accueillies par l'Iran et le Pakistan sont des Afghans. 6 millions d'Afghans ont quitté le pays, parfois sont revenus, sont repartis, etc., depuis la fin des années 70, par exemple. C'est le top, si j'ose dire, en termes de personnes déplacées et réfugiées. Autre élément, c'est pourquoi là ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui il est très difficile d'entrer. Donc comme il est difficile d'entrer, ben, il y a une économie de la frontière qui est très florissante et qui explique donc les points de passage, mais aussi le développement de tout ce trafic des personnes qui caractérise le monde entier. Et dans l'ensemble, plus la distance est lointaine, plus le trafic est organisé et plus les prix sont élevés. Et un petit graphique tout en bas qui est intéressant parce qu'il sert de point de départ à une réflexion, disons, sur la gouvernance mondiale des migrations, la charte des Nations Unies de 90 sur les droits de tous les travailleurs migrants. Si on regarde les pays qui ont signé, maintenant il y a 42 pays qui l'ont signé. Quand j'ai fait la carte, c'était en 2008, donc ça avance lentement. Aucun pays du Nord n'est signataire de cette convention de 90 parce qu'elle garantit aussi des droits aux sans-papiers. Donc la diasporisation, aussi une tendance lourde aujourd'hui à l'échelle mondiale des grandes migrations. Ce n'est pas vraiment des diasporas, c'est plutôt des quasi-diasporas, parce que précisément la caractéristique, c'est qu'elles construisent des liens, mais non seulement entre elles, mais aussi avec les pays de départ qui aujourd'hui ont une sorte de politique d'émigration. Une chose qui est très intéressante aussi, pendant très longtemps, moi je suis de la génération comme Jean-Pierre, où on s'est surtout intéressé aux politiques d'immigration, mais aujourd'hui les pays de départ développent un peu subrepticement des politiques d'émigration, c'est-à-dire des politiques à l'égard de leurs migrants pour créer des liens, pour exister parfois sur la scène internationale, pour soutenir leur diaspora. Ça rapporte aussi de l'argent, les transferts de fonds, trois fois l'aide publique au développement, 328 milliards de dollars, je crois, en 2008. Il y a toute une diplomatie de la migration qui est menée aujourd'hui par les pays de départ et qui, aujourd'hui, avec ça se concrétise avec des ministères, ça, dans un contexte où l'immigration est fermée. C'est ça qui est assez intéressant et paradoxal à observer. Cette politique de soutien aux diasporas, mais aussi à tous les migrants de l'étranger. On leur donne le droit de vote, etc. Souvent, ils sont double nationaux. Ça permet d'avoir une influence dans les pays d'accueil. Ça, c'est une tendance nouvelle très forte qui existe du côté des pays de départ. Les Chinois, donc 50 millions environ de Chinois dans le monde, surtout dans cette région d'Asie du Sud-Est, mais aussi dans le monde entier, comme on le voit. Et là, on le voit sur ce graphique, je ne vais pas y rester. Les Roms, qui sont devenus un groupe évalué à une douzaine de millions de personnes, surtout en Europe et un petit peu aux États-Unis et en Russie. La migration, on parlait tout à l'heure des catégorisations qui explosent. Donc là, une nouvelle catégorie, les étudiants. la dimension européenne, je vais y revenir. Migration ethnique aussi. Avec la chute du mur de Berlin, on a eu des nouvelles catégories, notamment les formes de désenchevêtrement des nationalités, de populations qui étaient hors de l'État. Même l'État, parfois, n'avait pas existé quand les gens sont partis, comme l'Allemagne. La plupart de ces gens sont les Aussiedler qui sont présentés sur cette carte. Ce sont des gens qui sont d'origine allemande, mais qui ont quitté des États allemands, mais qui n'étaient pas l'Allemagne, et qui sont revenus. 2 millions d'entre eux sont revenus en Allemagne, par exemple, depuis 1989. Donc c'est le plus grand regroupement de désenchevêtrement des nationalités depuis la chute du mur de Berlin. Mais on en a beaucoup d'autres. On a 350 000 Bulgares qui sont repartis en Turquie. On a, au contraire, des Grecs qui se trouvaient sur les rives de la mer Noire qui sont repartis en Grèce. On a eu des Hongrois de Roumanie qui sont repartis en Hongrie. On a eu des Finnois. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, 450 000 Finnois de Carélie sont repartis en Finlande et quelques dizaines de milliers depuis 1989. Donc on a eu un grand désenchevêtrement des nationalités dans cette région qui a ajouté aux migrations qui ont été présentées, migration de travail, migration familiale, migration de réfugiés. Puis un phénomène dont Jean-Pierre a parlé un tout petit peu, voilà, qui est les migrations des retraités. Là, c'est ce que certains appellent le British Land, des Anglais qui vont vivre leurs vieux jours sous le soleil. Mais ça existe aussi en Espagne, en Grèce, également au Portugal, beaucoup d'Anglais. Maintenant, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Bulgarie joue cette carte d'attraction des diplômés et qui peuvent avoir une sorte de e-business, mais aussi des retraités qui décident de vivre là où le coût de la vie est moins cher et là où on peut vivre sous le soleil. Nouvelle catégorie aussi. Alors, une chose que je voulais vous présenter aussi. Alors, les pays du... Alors, dans les glissements des catégories, donc, le fait que beaucoup de pays d'Europe du Sud sont passés finalement très brusquement depuis les années 85, c'est-à-dire depuis 25 ans, de pays de départ à des pays d'accueil, mais avec des spécificités qui sont très marquées par des réalités régionales. Par exemple, je n'ai pas mis à tarder longtemps, mais le Portugal, par exemple, est très marqué par la décolonisation portugaise, encore aujourd'hui dans son paysage migratoire. L'Espagne, par le voisinage du Maroc et les liens avec l'Amérique latine. La Grèce, par la chute du mur de Berlin. L'essentiel des migrations en Grèce aujourd'hui, il ne faut pas oublier que jusqu'en 2004, la Grèce n'avait aucune frontière commune avec l'Union européenne. Et donc, on le voit dans ces migrations, puisqu'on a 62% d'Albanais, donc les Albanais qui constituent 62% des étrangers. On a la Bulgarie, on a la Roumanie, la Géorgie, la Pologne. Donc, une forte présence d'Europe de l'Est dans ce pays, nouveau pays d'immigration. Et l'Italie a été marquée à la fois par la mondialisation, mais aussi par des liens migratoires forts avec le voisinage géographique de l'Albanie, la proximité du Maroc, la proximité linguistique de la Roumanie, etc. Donc on a une sorte de saupoudrage qui correspond à la mondialisation qui s'est produite dans ce pays en termes de migration. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui sont récentes. Tout ça, ça s'est produit en 20 ans. Donc il y a eu des transformations tout à fait caractéristiques. Et je ne vais pas m'étendre plus longtemps, mais je voudrais, parmi les choses qui ont beaucoup évolué aussi, c'est les conflits de priorité, ce que certains appellent des globalisations contradictoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, dans la construction des politiques migratoires, cette fois-ci du côté des pays d'accueil, on a des conflits qui sont de plus en plus forts entre l'exercice de la souveraineté de l'État, notamment sur ses frontières, sur la définition de son identité, etc., et en même temps, les impératifs du marché du travail. Donc, on navigue, disons, un petit peu à vue en la matière, les droits de l'homme aussi, surtout pour l'Europe, qui se définit comme région des droits de l'homme. Conflit également entre le welfare qui s'est installé dans beaucoup de pays d'accueil, notamment européens, et puis la fluidité des migrations, ou les impératifs, par exemple, de sécurité face à l'impératif de diversité. Donc là aussi, on a des conflits de priorité très très forts qui sont de plus en plus saillants pour les processus de décision des pays d'accueil. Autre élément, Et je terminerai là-dessus. Finalement, comment gérer cette situation de plus en plus complexe où les frontières sont de plus en plus floues, où les catégorisations sont de plus en plus floues également, où il y a des conflits de priorités. Aujourd'hui, l'Europe, c'est le seul espace qui fonctionne en termes de liberté de circulation des Européens. Il y a des quantités, je crois qu'il y a 22 accords au monde sur des espaces de circulation migratoire. Aucun ne fonctionne sauf l'Europe. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. La plupart ne sont pas respectés. On a la CEDEAO, on a le Mercosur, on a beaucoup d'autres espaces de liberté de circulation, mais qui ne fonctionnent pas. Donc le niveau régional... Pour l'instant, l'État n'est plus capable de maîtriser les flux migratoires à l'échelle stato-nationale. Les espaces régionaux fonctionnent mal. La gouvernance mondiale commence à se mettre en place, mais de façon très timide, en parallèle des diplomaties officielles. On a des forums migration-développement qui, à l'initiative des Nations Unies depuis 2006, ont commencé à se mettre en place. Depuis 2007, on a eu Bruxelles, on a eu Manille, on a eu Athènes, on a cette année le Mexique, etc. Donc c'est l'idée du multilatéralisme. En disant finalement, faut un Bretton Woods des migrations, faut mettre autour de la table les pays de départ, les pays d'accueil, les ONG, les associations, les employeurs, les syndicats, les églises, toute une série d'acteurs, les associations de développement de migrants, etc., pour essayer de se mettre d'accord sur une sorte de plateforme qui s'imposerait, comme on l'a pour... beaucoup d'autres secteurs économiques et qui permettraient de définir la mobilité et la migration comme bien public mondial. C'est-à-dire en disant finalement comme la mobilité et la migration sont un facteur essentiel du développement humain, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport du PNUD de 2009, ben il faut, disons, accompagner la mobilité plutôt que de la restreindre, parce que la restriction de la mobilité est un effet pervers essentiel dans le fonctionnement du développement humain. Donc l'idée, c'est définir un bien public mondial et affirmer le multilatéralisme. Alors bien sûr, ça ne trouve pas le consensus. Les pays les plus souverainistes sont très opposés, dont les États européens, dont les États-Unis. Mais il y a un mouvement en place. Un mouvement en place qui dessine une revendication quand même du XXIe siècle, c'est le droit à la mobilité. Les deux tiers de la planète ne peuvent pas circuler librement. Aujourd'hui, ils peuvent sortir de chez eux, mais ils ne peuvent pas entrer quelque part. Et les visas sont très difficiles à obtenir. Donc le droit à la mobilité plane un petit peu sur ces forums et sur cette idée que la mobilité et la migration... sont un bien public mondial et que si les gens ne bougeaient pas, ce serait encore pire en termes d'inégalité que ce qu'on a aujourd'hui.
Merci beaucoup. Bon,